France Inter.
France Inter, il est 19h. Les infos avec Éric Delvaux, bonjour.
Bonjour et bonsoir Xavier Delaporte et bienvenue à tous. Au sommaire ce soir, l'incertitude croissante sur le sort des deux Français détenus en Iran. Les proches de Cécile Keuler et Jacques Paris ont organisé un rassemblement aujourd'hui à Paris. La famille de Jacques Paris a parlé pour la première fois et on apprend ce soir la disparition inquiétante d'un jeune Français de 18 ans en Iran. En France, mais pourquoi des abeilles ont-elles attaqué des passants ce matin en plein centre-ville d'Aurillac? Il y a 3 blessés graves. Le frelon asiatique n'est peut-être pas étranger à ces piqûres d'abeilles. Au Texas, un début de polémique sur le système d'alerte après les violentes inondations qui ont fait au moins 59 morts. Le Tour de France, deuxième étape remportée à Boulogne-sur-Mer par le Néerlandais Mathieu Van Der Poel. Elle a eu également le concert annulé ce soir aux Eurockéennes du rappeur Freeze Corleone. Et puis nous reviendrons sur le plus gros vainqueur de jeux télévisés en France. Sur TF1, le jeune Émilien a quitté les 12 coups de midi avec plus de 2 600 000 euros. Le temps de demain, lundi, Magali Rochereau. La fraîcheur pour débuter la semaine.
Oui Eric, et sous un ciel variable avec des ondées localement orageuses sur le nord-est du pays.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
France Inter.
Mais où sont donc passés les deux Français détenus en Iran depuis 3 ans, Cécile Keuler et Jacques Paris, accusés notamment d'espionnage pour le compte du Mossad, le service de renseignement israélien. Il y a 2 semaines, leur prison en Iran a été touchée par des frappes israéliennes. Les proches du couple français sont chaque jour plus inquiets. Ils ont même organisé aujourd'hui un rassemblement de soutien. C'était cet après-midi, devant le Panthéon à Paris. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir Eric.
Vous y étiez. Et pour la première fois, la fille de Jacques Paris a pris la parole.
Oui, avec des nouvelles alarmantes des conditions de détention des deux otages français, particulièrement éprouvées par les bombardements de leur prison d'Evine. C'était le 23 juin dernier. Désormais détenus au secret dans 2 nouveaux lieux de détention, lors d'une visite consulaire en début de semaine, Jacques Paris insistait sur l'extrême dureté de ces conditions de détention. Sa fille Anne-Laure Paris prend donc aujourd'hui la parole publiquement pour la première fois. Elle demande aux autorités françaises de tout mettre en œuvre pour les faire libérer au plus vite.
On est dans des conditions d'urgence vitale. Mon père a réexprimé sa détresse profonde et le fait qu'il ne tiendrait pas longtemps. Ce qu'on demande aux autorités françaises, c'est qu'ils se saisissent de tous les moyens diplomatiques pour les faire sortir de là immédiatement. Donc là, on est face à un danger extrême, une urgence vitale. Il faut le sortir de là immédiatement.
1156 jours de détention avec désormais cette accusation d'espionnage au profit d'Israël, passible en Iran de la peine de mort. Il y a plus que jamais urgence donc à les faire libérer, souligne la sœur de Cécile Keuler, Noémie Keuler.
Là, il faut vraiment que la France trouve la solution de les sortir de là le plus vite possible, pas dans 3 mois, mais immédiatement, parce que là, ils sont en danger de mort, ils ont échappé à des bombardements et ils ne vont plus tenir très longtemps dans ces conditions.
Les familles particulièrement inquiètes sur l'état de santé psychique des deux otages français.
Laurent Kramer, et puis on est donc sans nouvelles ce soir d'un jeune Français de 18 ans qui se rendait à vélo en Indonésie. Il faisait étape en Iran. Plus de nouvelles de lui depuis 3 semaines. Une disparition jugée inquiétante, dit ce soir le Quai d'Orsay. Ça s'est passé ce matin en plein centre-ville d'Aurillac dans le Cantal. Une 20aine de passants ont été piqués lors d'une charge d'abeilles qui fuyait le rucher installé sur le toit du grand hôtel d'Aurillac. Il y a 3 blessés graves après des réactions allergiques. Willy Moreau.
L'une des victimes, une personne âgée piquée par plusieurs dizaines d'abeilles, a même fait un arrêt cardiaque avant d'être ranimée. C'est ce que nous indique le maire d'Aurillac, Pierre Matonnier.
Les policiers témoignaient et ils me disaient mais c'était impressionnant quoi. Sur les futures victimes, il y avait 20-30 abeilles.
Tout s'est passé entre 9h30 et 10h en plein centre-ville d'Aurillac, à quelques mètres de la maison d'arrêt. Les abeilles sont descendues de la terrasse du grand hôtel de Bordeaux où se trouvent depuis des années 3 ruches. Il n'y avait jamais eu de problème jusqu'ici.
Le comportement anormal doit s'expliquer par peut-être une menace qu'elles percevaient. Et à l'intérieur de la ruche, ce que m'a dit l'apiculteur, ils ont retrouvé des frelons asiatiques.
Et les frelons auraient pu déranger ces abeilles qui, se sentant menacées, ont foncé sur les passants. Le maire devrait prendre un arrêté pour interdire de fait ces ruches en centre-ville. Au total, 19 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Le secteur bouclé pendant près de 3 heures ce matin.
Willy Moreau. Et à Paris, c'est la végétation qui inquiète les autorités. Les arbres notamment, malmenés par les aléas climatiques. Entre les épisodes de chaleur intense, les séquences de grêle et un violent orage récent, la mairie de Paris a recensé plus de 500 arbres cassés ou déracinés. Alors comment ces arbres digèrent-ils ces traumatismes? Sujet sur lequel vous vous êtes penchée, Béatrice Duguay.
Le spectacle des colosses cassés aux pieds ou réduits à de simples troncs désole encore Amaury Paulet du service de l'arbre à la mairie de Paris.
Sur 5 arbres, il y en a à peu près un qui a été épargné. Hein.
Armé de son mètre ruban, tablette en main, il renseigne l'état des platanes du boulevard Excel Mans sur son logiciel.
Donc circonférence, hauteur, et ensuite on met s'il y a des pathologies.
En l'occurrence, avec les vents très violents qu'il y a eu, sont ce qu'on appelle des plaies d'arrachement.
À ses côtés, avec son marteau en bois, Bouba Konaté, en charge du patrimoine arboré du 16e arrondissement de la capitale.
C'est pour taper un peu l'arbre et regarder s'il est creux ou pas.
Le creux dévoile la fragilité potentielle. Les plaies de ces dizaines d'arbres ne se soigne pas.
Avec l'aide de la cellule expertise arboricole, on va faire un bilan un petit peu plus approfondi pour savoir si on peut maintenir ou pas ces arbres sur pied. Quoi.
Pour des questions de sécurité, évidemment. Les arbres qui ont perdu des branches sont déséquilibrés pour certains et puis la canicule fait tomber les feuilles. Pas sûr que tous les platanes s'en sortent pour Amaury Paulet.
Ça nous donne aussi à réfléchir sur la diversification des essences. Est-ce qu'il faut qu'on continue de diversifier les essences de manière à avoir des arbres qui ont différentes manières de se défendre en anticipant ce réchauffement climatique.
Les techniciens cherchent donc des arbres qui font suffisamment d'ombre mais qui vont résister aux phénomènes extrêmes.
Béatrice Duguay, attention au risque d'incendie demain dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var et dans l'Aude, trois départements placés en vigilance rouge en raison donc d'un risque très élevé de feux de forêt demain. Plusieurs massifs forestiers sont d'ailleurs fermés. Dans l'Hérault, une reprise de feu a été maîtrisée cet après-midi sur la commune de Mirval. 120 pompiers sont toujours sur place. Le dossier des droits de douane entre l'Europe et les États-Unis. Le ministre français du commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, invité de France Inter à la mi-journée, affirme que les Américains envisagent une hausse globale de 10%. Laurent Saint-Martin qui a également donné son point de vue sur un autre dossier. La tribune que son collègue de l'intérieur, Bruno Retailleau, a fait paraître mercredi dans le Figaro pour le tout nucléaire et contre le financement public de l'éolien et du photovoltaïque. Le même Laurent Saint-Martin estime donc désormais gênant que son collègue Bruno Retailleau reste au gouvernement. À Chablis, dans l'Yonne, la caserne de gendarmerie était la cible de tirs à l'arme de chasse ce matin, sans faire de victimes. Bruno Retailleau assure que tous les moyens sont mis en œuvre pour identifier les coupables.
France Inter, Éric Delvaux.
Au Texas, le bilan des violentes inondations d'hier est désormais d'au moins 59 morts. Bilan toujours provisoire. Il manque 27 jeunes filles à l'appel. Elles séjournaient en colonie de vacances dans un camp réputé au bord de la rivière Guadalupe qui a brutalement débordé. Et une polémique est en train d'enfler sur un supposé manque d'efficacité des alertes. Aux États-Unis, Loïc Loury.
4 mois de pluie en quelques heures, des sols trop secs et une montée des eaux éclairs en pleine nuit. Le scénario du pire à entendre Dalton Rice, un responsable local du comté le plus sinistré. On ne peut pas avoir de sirène comme avec une tornade et ce n'est pas un ouragan que nous anticipons des semaines en avance. Cette inondation a tapé fort dans une zone très précise. C'est ce qui s'est passé et le tout en moins de 2 heures. Mais déjà, certains cherchent des coupables. Les 2 antennes météo locales manquaient un site personnel dans le contexte des coupes budgétaires ordonnées par Donald Trump, climato-sceptique notoire. Sa secrétaire à la sécurité intérieure, Christine Noem. Nous ferons tout pour réparer ce qui a pu être perçu comme des défaillances par votre communauté. Nous savons que tout le monde veut être alerté le plus tôt possible. Et c'est pourquoi nous travaillons dur pour améliorer les technologies qui ont été si longtemps négligées. Le fait est que des alertes ont bien été émises, ont-elles été assez pressantes, assez relayées et assez entendues? Ce coin du Texas est réputé très exposé aux inondations, la vallée fluviale, assure un élu local, la plus dangereuse des États-Unis. New York, Loïc Loury, France Inter.
L'ouverture aujourd'hui au Qatar de négociations indirectes entre Israël et le Hamas. Il s'agit de trouver un accord sur une trêve dans la bande de Gaza et également une nouvelle libération d'otages. Demain, aux États-Unis, sur le même sujet, Benjamin Netanyahou rencontrera Donald Trump. Le premier ministre israélien, avant d'embarquer, a estimé d'ailleurs que sa visite aux États-Unis pourrait bien contribuer à conclure un accord sur Gaza. Le sport avec l'arrivée de la deuxième étape du Tour de France. C'était il y a à peu près une heure et demie à Boulogne-sur-Mer, l'étape la plus longue de la boucle. Victoire d'étape et maillot jaune pour le Néerlandais Mathieu Van Der Poel, coéquipier d'ailleurs du vainqueur d'hier, Jasper Philipsen. Bonsoir Nicolas Pironnet.
Bonsoir Eric.
Victoire donc de Mathieu Van Der Poel au finish devant Tadej Pogacar.
Oui, les deux meilleurs coureurs de la saison, hein, clairement, les deux phénomènes, bras dessus, bras dessous, après avoir franchi la ligne. C'est l'image qu'on retiendra de cette étape où tout s'est joué dans le dernier kilomètre, tous les deux au sprint, au sommet de la petite montée finale dans les rues de Boulogne-sur-Mer. Et c'est donc le petit-fils de Poulidor qui a été le plus costaud pour s'imposer et enfiler le maillot jaune qu'il n'avait plus porté depuis 2021. Hier, Mathieu Van Der Poel avait déjà parlé d'un tour réussi après la victoire de son coéquipier, vous l'avez dit, Jasper Philipsen, dans l'équipe alpécine de Koenig. Alors que dire ce soir? Eh bien que c'est encore plus fort.
Ouais, c'est encore plus réussi qu'hier. Je pense là, ouais, c'est un rêve pour l'équipe et aussi pour moi pour commencer comme ça. Donc, ça fait 4 ans que j'ai gagné une étape et le tour c'était quand même toujours difficile pour moi et j'essayais vraiment pour gagner une étape, mais c'est pas facile et je suis heureux de finalement gagner de nouveau.
Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar, les cadors du peloton déjà dans la lumière du tour dont les projecteurs se sont aussi braqués aujourd'hui sur un Français, Kevin Vauclin, à la bagarre avec les meilleurs dans cette fameuse montée.
Bah oui, c'est sûr, d'être déjà dans ce groupe, c'est déjà exceptionnel. De pouvoir vraiment me battre pour la victoire, peut-être presque le seul à attaquer plusieurs fois, bah ouais, c'est sûr que c'est juste exceptionnel. Je pense que je m'en rendrai peut-être plus compte ce soir, parce que là, je suis encore dans l'euphorie et juste l'envie de gagner une course.
Le Normand, 4e du classement général ce soir, derrière le trio magique Van Der Poel, Pogacar, Vingegaard, Kevin Vauclin, porteur à 24 ans, également du premier maillot distinctif de sa carrière, le maillot blanc de meilleur jeune.
Nicolas Perronnet sur la route du Tour avec Lucien Lefebvre pour les moyens techniques. Demain, la troisième étape va s'élancer de Valenciennes pour Dunkerque. Il fallait bien que ça s'arrête un jour. Dans le jeu de culture générale de TF1, les 12 coups de midi, le jeune candidat Émilien, 22 ans, a été éliminé dans l'émission diffusée aujourd'hui. Il sera donc passé quotidiennement à la télévision pendant près de 2 ans, 21 mois précisément. Et il repart avec un gain cumulé de 2 600 000 euros, c'est le plus gros gain de l'histoire des jeux télévisés en France. Bonsoir Victor Vasseur.
Bonsoir.
Eh bien, en attendant de reprendre éventuellement ses études d'histoire, ce jeune homme de 22 ans pourrait bien surfer un peu sur sa notoriété.
Après cette défaite, il n'a aucun regret, dit-il. Émilien se laisse une année pour profiter et souffler avant de reprendre ses études. Le métier d'enseignant lui plaît. De revenir, pourquoi pas, dans le jeu à l'occasion de Prime et d'émissions spéciales. Émilien qui aura marqué les téléspectateurs avec sa connaissance encyclopédique.
Pop ! Quel adjectif d'origine grecque désigne un animal qui se nourrit de matière végétale ?
Phytophage.
Jusqu'à 11 heures de tournage par jour. Imaginez la concentration nécessaire pour cet ancien étudiant toulousain qui a mis sur pause ses études, comme il l'explique dans cette interview à la chaîne Hugo Décrypte.
Je faisais que ça. J'ai vraiment mis une bonne partie de ma vie entre parenthèses pendant ces temps-là. Je jouais tout le temps et il y avait ce truc de... J'avais peur de... Si je suis chez moi et que je ne joue pas même pendant quelques heures, ça se trouve, je vais passer à côté de la question qui va me faire perdre.
Arrivé en septembre 2023 avec sa timidité et ses lunettes rondes, Émilien cumule aujourd'hui les records, celui du nombre de participations à un jeu télé, 647, et surtout ses gains du jamais vu en Europe. Il touchera une partie en cash et l'autre en cadeau, des voyages, des mixeurs, des aspirateurs glanés au fil des émissions, et surtout 23 voitures qu'il compte revendre.
Victor Vasseur. Concert annulé ce soir aux Eurockéennes de Belfort pour le rappeur Freeze Corleone. Interdiction par arrêté préfectoral qui estime que sa prestation pourrait bien entraîner des troubles à l'ordre public à cause des textes de ses chansons qui font, et je cite l'arrêté, qui font l'apologie de l'antisémitisme, du terrorisme et qui font mention du nazisme. Le président des Eurockéennes, Mathieu Pigas, y voit une décision politique.
C'est une double première à mon sens. C'est une première pour les Eurockéennes de Belfort. Jamais un concert n'a été interdit ici aux Eurockéennes en 35 ans d'existence. Et à ma connaissance, c'est une première dans un festival. Jamais un concert d'un artiste n'a été interdit au cours d'un festival. C'est une double première. C'est bien à l'initiative d'un élu du Rassemblement National, député, que le préfet a décidé, à la suite de son initiative, d'interdire ce concert. Il nous a saisis au dernier moment. Au moment où il a signé cet arrêté d'interdiction, il n'avait eu formellement aucun échange, ni écrit, ni oral, en tout cas au fond, avec le festival. Et le fait qu'une autorité étatique, un représentant de l'État, vienne intervenir dans la programmation d'un festival, nous paraît extrêmement préoccupant.
Après le festival des Eurockéennes, celui d'Avignon, placé cette année sous le thème des cultures arabes, Stéphane Capron a vu le spectacle intitulé « Notes » de la chorégraphe Marlène Monteiro Freitas. Inspiré des contes des Mille et Une Nuits, ce spectacle a divisé le public hier soir. Il faut dire que la chorégraphe capverdienne a revisité ses contes avec ses propres codes issus de la tradition du carnaval, Stéphane Capron.
Lorsqu'un danseur monte un pot de chambre dans les gradins du Palais des Papes et demande au spectateur de le lécher, beaucoup rechignent. On retrouve bien là le style de Marlène Monteiro Freitas, une danse grimaçante, étrange et intimement liée à la musique imprégnée de l'entrain du carnaval. Note signifie nuit en créole capverdien et la nuit, tout devient possible pour la chorégraphe. Elle a souhaité montrer une galerie de petits personnages qui s'agitent sur la scène monumentale du Palais des Papes, à commencer par la danseuse originaire du Mozambique, Mariana Tembe, née sans jambes et qui incarne la figure de Scheherazade. Elle est formidable dans ce Capharnaüm. Alors, tout n'est pas réussi dans le spectacle, notamment la scénographie et cet énorme grillage blanc, signe de l'enfermement de Scheherazade. Mais au fil du spectacle, il faut lâcher prise, se laisser emporter par l'énergie de ce délire opératique, par la bande-son d'une grande richesse qui nous emmène du Maroc jusqu'à Stravinsky et ses noces. Marlène Monteiro Freitas propose ici une fantaisie carnavalesque, une version fantasmée des contes des Mille et Une Nuits.
Les musiques arabes au Festival d'Avignon. C'était Stéphane Capron. Le temps.
La météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonsoir Magali Rochereau.
Bonsoir Eric.
Le ciel sera bien dégagé demain dans le sud.
Et oui Eric, Languedoc, région PACA et Corse sont au soleil dès demain matin et aussi sous la Tramontane, le Mistral et le vent d'ouest entre 60 et 80 km par heure en rafale de la Côte d'Azur à la Corse. Tandis que sur le reste du pays, le temps reste nuageux, accompagné de pluies faibles du sud-ouest à l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais plus marquées et orageuses sur le quart nord-est. L'après-midi se passe sous un ciel variable avec une alternance de nuages, d'éclaircies et parfois d'ondées, notamment près des Pyrénées. Ondées qui seront parfois orageuses du nord de la Seine au Grand Est et aux Alpes du Nord.
Et les températures sont bien fraîches pour la saison.
Et oui, ça se confirme, il fera entre 18 et 22 degrés le matin sur le pourtour méditerranéen, 23 à Marseille, 24 à Nice et 27 à 32 en général l'après-midi. Ailleurs, prévoyez des maximales de 20 à 25 degrés, 21 dans la capitale, localement 25 et 26 sur le sud-ouest et 24 à Biarritz comme à Toulouse.
Les prévisions météo de Magali Rochereau.